الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله. cette soirée du samedi 22 Ramadan 1435 de l'Hégire, correspondant au 20 juillet 2014. حياكم الله جميعا. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter notre siyam et aussi le qiyam. Et inshallah ta'ala, tafadhal pour la première question.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais poser la première question, inshallah, puisque le frère Mahmoud s'est déconnecté. Question d'un frère, D, qui nous appelle rabiste. En fait, ils font allusion à Cheikh Rabir, hafidhahullah, sachant qu'ils ne sont pas ignorants. Devons-nous les boycotter? Barakallahu fikum, Cheikh.
Je n'ai pas entendu le mot. Tu as dit qu'ils disent de nous que nous sommes, et j'ai pas entendu le mot. Nous sommes quoi? Tu voulais des wahhabistes ou quelque chose comme ça? Tfadla.
Des rabistes, cher. Rabistes. Je pense à Allahu A'lam, il faut allusion à Cheikh Rabir. Allahu A'lam.
Ah, non, j'ai compris. Ils disent rabiistes, rabiistes. Ils disent aussi madkhadistes. Et madakhi, là, il est. Rabbiiste, etc. Nam. D'où ce sont des juhal. Ce sont des juhal. Et s'ils connaissaient vraiment Cheikh Rabbi, Hafidhahullah, ils n'auraient pas dit ce. Ils auraient été fiers. Ils auraient été fiers de dire Nam, c'est pas un savant. Moi, compris le minhaj de Cheikh Rabbi, Hafidhahullah, ta'ala. Donc vous voyez avec ces gens, s'il y a moyen de leur faire comprendre, sinon, on se suffit à salam, salam, et ça suffit. Je ne suis pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Hein. On suffit à salam, salam. Non. Sinon, comme j'ai dit, cette frange, elle existe partout. Partout dans le monde musulman, il y a des gens qui disent d'autres, yani qu'ils sont des madkhadistes et des rabiistes, etc. Tout simplement, comme j'ai dit, parce qu'ils ne connaissent pas le minhaj de Cheikh Rabi, hafidhahullah. Et je suis sûr que s'ils l'avaient connu, naam, ils changeraient d'avis. Naam. Tfadla.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande. Il y a de cela 7 ans, un frère nouveau dans la Salafia, qui était dans le besoin de travailler, avait parlé avec un autre frère de son besoin. Le frère lui proposa de venir travailler chez lui dans sa sandwicherie, ce qu'il accepta. Mais il ne conclut pas de salaire avec lui du fait qu'il était un peu timide et qu'il fit confiance à ce frère qui était plus ancien que lui dans le minhaj. Il était avant lui 7 jours sur 7, et cela du matin au soir, jusqu'à ce qu'il accumula un total d'environ 350 heures de travail en un mois. Donc j'ai fait le calcul, 350 heures en un mois, ça fait plus de 11 heures jour. À la fin de ce mois, l'employeur lui dit qu'il allait l'arrêter, car le commerce ne fonctionnait pas très bien, suite à quoi il donna un total d'environ 250 euros. Il ne dit rien et patienta en espérant et pardonner. Soit que le frère, un jour, vienne lui donner son dû. Le temps passa, et 7 ans plus tard, l'employé lui écrit une lettre en lui exposant ce qui s'était passé et lui demande un total de 2000 euros pour tout le travail fourni, c'est-à-dire pour les 350 heures. Ce à quoi l'employeur, qui était son seul interlocuteur pour lui demander de travailler et aussi pour lui dire que c'est fini. Et c'est lui aussi qui lui avait donné les 250 euros. Qui lui a donné les 250 euros des deux.
Ensuite, si tu termines la question, il faut me la résumer car je n'ai pas compris. Il y avait beaucoup de coupures. Posez si tu as une question le temps qu'il revienne.
Salam alaikum, désolé. Alhamdulillah. Donc, je vais reposer la question de du frère Mahmoud, celle qu'il a posée, Inch'Allah. Il y a de cela 7 ans, un frère nouveau de la Salafia, qui était dans le besoin de travailler, avait parlé à un autre frère de son besoin. Le frère lui proposa de venir travailler chez lui, dans sa sandwicherie, dans son snack. Ce qu'il accepta. Mais il ne conclut pas de salaire avec lui, du fait qu'il était un peu timide, et qu'il fait confiance à ce frère qui était plus ancien dans le minhaj. Il travailla pour lui, 7 jours sur 7, et cela du matin au soir, jusqu'à qu'il accumula d'un total environ de 350 heures de travail en un mois. À la fin de ce mois, l'employeur lui dit qu'il allait l'arrêter car le commerce ne fonctionnait pas très bien. À quoi il lui donna un total d'environ 250 euros. L'employeur ne lui dit rien et patienta en espérant soit oublié et pardonné, soit que le frère un jour vienne lui donner son dû. Le temps passa et 7 ans plus tard, l'employeur lui écrit une lettre en lui exposant ce qui s'était passé et lui demandait un total de...
Maintenant, il y a eu des coupures, j'ai pas entendu. Donc, tu reviens marche arrière, tu as dit qu'il lui a donné un salaire de 250 euros. À partir de là, continue. Il lui a donné un salaire de 250 euros environ.
L'employeur ne lui dit rien et patiente en espérant soit oublier et pardonner. Soit que le frère un jour vienne lui donner son dû. Le temps passa et 7 ans plus tard, l'employeur lui écrit une lettre en lui exposant ce qui était passé. Et il lui demande un total de 2000 euros pour tout le travail fourni. Ce à quoi l'employeur, qui était son seul interlocuteur, pour lui demander de travailler et c'est fini. Et c'est lui aussi qui lui avait donné les 250 euros. Il lui répond qu'il lui donnerait seulement la moitié de cette somme, c'est-à-dire 1000 euros, et qu'il devait aller voir l'autre associé pour le reste. L'employé ne comprend pas pourquoi il devrait aller voir l'associé, sachant qu'il n'a jamais eu affaire à lui, ni au début du contrat, ni à la fin, et que ce n'est pas lui non plus qui l'a payé. De plus, il ne peut retrouver cet associé. Quel est votre conseil ? Fin de la question, cher. Barakallahu fikoum.
Qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin ? Il lui a dit que... Qu'est-ce que tu as dit à propos de l'associé ? Qu'est-ce que tu as dit à propos de l'associé ?
L'employeur ne comprend pas pourquoi il devait aller voir l'associé, sachant qu'il n'a jamais eu affaire à lui, ni au début du contrat, ni à la fin. Et que ce n'est pas lui non plus qui l'a payé. De plus, il ne peut retrouver...
Quand il a écrit l'employé, il a écrit avec E-R, alors qu'il devait écrire l'employé avec E et accent. C'est pour ça que maintenant, quand il a écrit comme ça, Fawzia a prononcé employeur. Et si c'est employeur, donc ce n'est plus l'employé, donc c'est le patron. C'est pour ça qu'il y avait un peu de Khalota et Tchikchouka dans la question, le mohem. C'était un peu difficile à comprendre. C'est qui l'employé, c'est qui l'employeur. Un moyen. Ce que je veux dire ici, c'est que la faute revient d'abord à celui qui a posé la question. Pourquoi ? Parce qu'il est allé travailler chez quelqu'un sans quoi ? Sans savoir combien il va être payé. Or ça n'existe pas en islam. Il faut, si je travaille chez quelqu'un, que d'abord, ça soit clair. Combien je travaille d'heures par jour, ou par semaine, ou par mois. Et maintenant, si toi, tu as fait cette faute, tu dis par timidité ou par autre chose, Yanni, il n'y a pas timidité en ces choses. En islam, tout est clair. Quand tu achètes une chose, tu dois savoir qu'est-ce que tu achètes, quels sont les... des attributs de cette chose que je vais acheter, yani ses formes, sa couleur, ceci, cela, combien qu'elle pèse, combien ça coûte, et ensuite j'achète ou j'achète pas. Donc la faute revient d'abord à celui-là, car il n'a pas précisé combien il devait être payé. Et maintenant, il voit avec son employeur, et son employeur doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et le payer ce qu'il doit. Maintenant, s'il le paye, alhamdoulilah, s'il ne le paye pas, l'autre peut faire une des deux choses. Non, s'il ne le paye pas. Quelles sont les deux choses qu'il peut faire? Ou bien, yani lui pardonner, ou bien lui dire, moi je pardonne pas ma part, et comme ça il va le mettre au pied du mur, pour que l'autre se débrouille pour le payer, ou bien, yani, pour qu'il le paye en pardonnant des hasanat. Voilà, il n'a pas autre chose à faire, parce qu'à la base, lui-même a fait la faute, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. On passe à une autre question, inshallah.
Barakallahu fikum, cher. Prochaine question. Question d'une sœur. Qu'Allah ta'ala vous élève au plus haut degré du paradis et bénisse votre da'wah. J'ai quatre frères et sœurs qui ont coupé les liens de parenté. Et mon père refuse que je leur parle ou que je les visite également. Il est en dispute avec un de mes oncles paternels. Il refuse également que je lui parle. Quel comportement dois-je avoir en sachant que dans tous les cas, je me dois de ne pas couper les liens de parenté? Mais j'ai peur que mon père ne veuille plus me parler après cela. Dois-je prendre contact avec eux en cachette? Est-ce que le fait de juste les appeler par téléphone me permet de ne pas être concerné par la coupure de lien de parenté? Ou est-il obligatoire de la rendre visite? Jazakallahu khair, cheikh.
Taïb, il y a eu une coupure lorsque tu as dit, sachant que dans tous les cas, ensuite il y a eu une coupure. Sachant que dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a dans... Donc je lis, que j'avoir en sachant que dans tous les cas, j'ai peur, etc. etc. Donc, est-ce que vous m'entendez pour la réponse? Vous dites qu'il y a des coupures, Fawzi, est-ce que tu confirmes qu'il y a des coupures? Est-ce que tu confirmes qu'il y a des coupures? Taïb, je sors et je reviens. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a toujours des coupures? Alhamdoulilah. Donc on va essayer, on va voir s'il y a toujours des coupures ou s'il n'y en a pas. Al-Muhim. Donc la réponse, Inch'Allah ta'ala, en islam, si quelqu'un se dispute avec une autre personne, moi, je n'ai pas le droit de ne plus parler à cette personne si... Pour moi, il n'a rien fait. Il ne m'a pas fait de mal. Il ne m'a pas lésé. Vous avez compris? Donc, ici, pour les liens de parenté, parce que son père ne va pas bien, n'a pas de bonne relation avec ses frères ou bien son oncle, là, moi, personnellement, je garde toujours mes liens de parenté. Comme m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, pour ne pas avoir des problèmes avec mon père, je peux le faire en cachette. Je peux le faire en cachette sans que mon père le sache. Et pour comment faire cela, ça on va répondre à la deuxième partie de la question. Je dis, on peut tenir et garder ses liens de parenté par téléphone. Même si c'est par SMS, en envoyant un texto. Comment ça va mon frère, la baisse, alhamdoulilah. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit... La façon de garder les liens de parenté, ce n'est pas seulement en allant chez la personne. Il a dit, tout ce qui est moyen reconnu par les gens, il est accepté. Maintenant, c'est reconnu par la plupart, par tout le monde, que le téléphone est un moyen de garder les liens. Si quelqu'un te téléphone, là, il demande comment vas-tu, ma soeur, ma tante, etc., tu sens yani le plaisir dans ton cœur et tu sens que yani de l'amour envers lui et comme ça. On peut garder le lien de parenté, on peut faire aussi le contraire. On peut avec le téléphone se disputer avec quelqu'un et l'insulter et couper les liens. Donc voilà, inshallah ta'ala, Allah ta'ala a donné, alhamdoulilah, yani, beaucoup de moyens de nos jours pour garder les liens. C'était pas comme autrefois, yani, il faut aller de voir dans l'autre ville et il n'y a pas les moyens, il faut un âne ou un cheval et je ne sais pas combien de kilomètres dans le désert pour aller voir mon oncle. Maintenant, alhamdoulilah, juste je prends le téléphone. Salam alaikum, Khali, comment ça va? Alhamdoulilah. Naam, tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Prochaine question, question d'un frère. Un frère a des problèmes de sorcellerie depuis bientôt 6 ans. Il se faisait ruqya depuis, il se faisait ruqya tout seul jusqu'à maintenant, mais sa situation n'évolue pas. Il sent le sihr au niveau de ses amygdales, de sa gorge, et aussi au niveau de son estomac. Il a des douleurs et plusieurs symptômes. Ce frère a 26 ans et il souhaite entreprendre plusieurs projets, comme le mariage, la hijra, etc. Mais il n'y arrive pas à cause de cette sorcellerie qui l'empêche. Ce frère souhaite que vous lui conseilliez un raki de confiance en Algérie, afin qu'il puisse aller le voir. Et il souhaite que vous lui communiquiez aussi les coordonnées, afin qu'il puisse le joindre, car ce frère se sent bloqué de toutes parts. Et sa situation est très stagnante. Jazakallahu khair, cher.
Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, je suis désolé pour le frère. Je ne connais aucun raqi en Algérie. Ou alors, pour, je ne connais aucun raqi dans la sunna, qui est sur la sunna, la vraie sunna, et qui fait ce travail. Yani, dans les normes de la sunna, et fi sabilillah, je ne connais personne. Aucun. Tout ce qui existe, tout ce qui existe, font ça comme commerce, comme tijara. Hein, ce sont des médecins. Yani, c'est comme si tu es un médecin, il te fait la ruqya, et tu le payes, et tu fais la chaîne, et tu, peut-être même tu payes d'avance. Là. Donc je ne connais aucun raqi en Algérie qui remplit les conditions. Peut-être que ça existe, mais moi je ne connais pas. Pour ne pas dire qu'il y a des... il n'y en a pas. Je dis peut-être qu'il existe un en Algérie ou bien deux, mais que je ne connais pas. Tous ceux que je connais ne sont pas sur le droit chemin. Non, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et ouvre ses portes et fait beaucoup de ruqya. Afoun, fait beaucoup de doua, je voulais dire. Et fait beaucoup de ruqya toi-même. Et peut-être que tu tomberas sur quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est vraiment sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui et fait ça dans les normes. Et peut-être, inshallah ta'ala, ce sera un sebb pour guérir. Sinon, yani, continue à faire beaucoup de doigts et apprends beaucoup la aqida. Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, en yashfiyek. Tfaddal.
Barakallahu fikoum, cher. Prochaine question. Question d'un frère ou d'une sœur. Ma question est la suivante. Comment effectuer le sujoud at-tilawa, que ce soit pendant la prière ou en dehors de la prière? Dans le cas où dans la prière on récite une sourate qui contient une prosternation, comment doit-on procéder? Doit-on se relever pour finir de réciter la sourate? Barakallahu fikum shir. Fin de la question.
En principe, les sujoud de la tilawa, en principe, presque tous, si ce n'est pas tous, sont yani, dans le milieu de la sourate ou vers la fin. Mais c'est très rare qu'ils sont vraiment... Ah. Je saurai, je vois bien, inshallah. Salam alaikum. Fawzi, fais saut. Alhamdulillah, on va voir. Si ça marche pas, on va voir quoi faire. Donc, je dis, quand quelqu'un est en train de lire le Coran, ensuite, il y a ce qu'on appelle une prosternation. Prosternation de récitation. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar. Bon, maintenant on va voir, par exemple, il est dans la salat. Il dit Allahu Akbar et il descend, il se prosterne. Et dans la prosternation, il y a une doua spéciale qu'il doit apprendre. Il y a deux ou trois. Il choisit l'une de ces deux ou trois ou quatre formules et il la dit. Non. Maintenant, s'il ne connaît pas la formule, au moins il dit, lorsqu'il se prosterne, au moins il dit. Au moins. Ensuite, il se relève en se prosternant. Il se relève de la prosternation sans s'asseoir.
sans s'asseoir, ce qu'on appelle jilsat al-istiraha, sans faire jilsat al-istiraha, sans s'asseoir, car il y a une petite assise, yani quand on fait le sujoud, le deuxième, et on veut se lever, on s'assoit d'abord un peu et on se lève. Maintenant, quand on fait la prosternation de récitation, là, on se lève directement, on dit Allahu Akbar, on se lève et continue à lire Naam, ce qu'on veut, et après, qu'est-ce qu'on fait? Yani, on termine notre salat. Ça, c'est un avis. Pourquoi j'ai dit c'est un avis? Car il y a un avis qui dit, quand tu es dans la salat et tu veux te prosterner pour faire une prosternation de récitation, sujoud de tilawa, il y a un avis qui dit, tu dis pas Allahu Akbar. Tu descends directement. Tu fais la prosternation avec la doua et tu te relèves. Ni en descendant, tu dis Allahu Akbar, ni en te relevant. Il y a un troisième avis qui dit, quand tu descends, tu dis Allahu Akbar, tu descends pour faire la prosternation. Quand tu te relèves, tu dis pas Allahu Akbar. Mais l'avis le plus fort, inshallah ta'ala, c'est quoi? C'est de dire Allahu Akbar quand on descend et Allahu Akbar quand on se relève. Pourquoi? À cause du hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que, comme quoi, kana yukabbiru, il disait Allahu Akbar, yani, inda ou fi, inda kulli raf wa khafd, à chaque fois qu'il descendait ou se relevait. Donc le hadith est général. Il a dit à chaque fois que le prophète, alayhi wa sallam, était dans la salat, à chaque fois qu'il descendait ou se relevait, disait Allahu Akbar. Et là, moi, je vais descendre. Donc je dis Allahu Akbar. Ensuite, je vais me relever. Donc je dis Allahu Akbar en marchant avec le hadith dans sa généralité qui a dit que il ne montait pas ou ne descendait pas sans dire Allahu Akbar. Donc c'est ça la Inch'Allah Ta'ala le plus fort. Tout ça, si on est dans la salat. Non. Maintenant, si on est en train de lire un livre, par exemple, en train de lire le Coran, ensuite il y a quoi? Il y a la prosternation. D'abord, je dois dire que ce soit dans la salat ou pas dans la salat, ce n'est pas une obligation de faire la prosternation. Ça, j'ai oublié de le dire. Ce n'est pas une obligation de se prosterner s'il y a un verset où on se prosterne. Je ne suis pas obligé de me prosterner si je lis, que je sois dans la salat ou pas dans la salat. Ça, c'est premièrement très important. Maintenant, si je ne suis pas dans la salat et je suis en train de lire et j'arrive à un verset de prosternation et que je veux, je dis je prosterne, parce que ça a quoi? Ça a des hasanats, ça a des récompenses. Quand je me prosterne, je ne suis pas obligé de me prosterner dans la direction de la Qibla, mais je me prosterne dans n'importe quelle direction que je suis. Contrairement à la prosternation de récitation, si je suis dans la salat, car si je suis dans la salat, je suis obligé d'être en face de la Qibla pour faire la salat. Donc je suis obligé aussi de me prosterner en face de la Qibla. Mais si je ne suis pas dans la salat, ce n'est pas obligé de se prosterner vers la Qibla. Dans n'importe quelle direction je suis, je me prosterne. Je dis Allahu Akbar et je descends, je me prosterne. Et ensuite, je me relève avec quoi? Avec ce que j'ai dit tout à l'heure comme divergence. Est-ce que je dis Allahu Akbar pour descendre et Allahu Akbar pour remonter? Ou bien je descends sans dire et je remonte sans dire? Ou bien je dis Allahu Akbar seulement en descendant? Dans tout cela, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, la divergence. Mais par contre, quand je suis dans la salat, non. Je descends avec le takbir et je remonte avec le takbir à cause du hadith. Quand je suis pas dans la salat, je choisis. Yani, c'est libre. Si je veux dire Allahu Akbar ou je dis pas, il n'y a rien de précis. Comme disent les ulama, ils disent l'amru wasi'a. Wallahu Akbar. Afwan, Wallahu A'lam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. C'est la prochaine question. Question d'un frère. Que répondre aux personnes qui s'interrogent sur les gouverneurs musulmans en disant que ceux-ci n'aident pas nos frères palestiniens et qu'ils devraient menacer publiquement Israël pour qu'ils arrêtent leur agissement? D'autres disent également que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, il ne resterait pas stoïque face à la situation de la Palestine. Qu'en est-il de cette parole ? Barakallahu fikoum, cheikh. Fin de la question.
La question contient deux grandes parties. La première, les gouverneurs, et la deuxième, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était présent, il aurait fait quelque chose. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je me trompe pas ? Est-ce que je me trompe pas ? C'est ça. Alhamdoulilah. Pour la première question, ce que font les gouverneurs, ce qu'ils font pas, ça c'est entre eux et yani leurs amirs et leur dîn et leur foi et leur taqwa et leur piété, etc. Et bien sûr qu'ils auront beaucoup de comptes à rendre demain dans le djinn. Si quoi, s'ils pouvaient faire quelque chose et qu'ils l'ont pas fait. Car il est possible qu'eux aussi ils ne peuvent pas faire. Ça vous le savez. Il est possible que tu sois gouverneur et que tu puisses pas faire. Et que tu sais que tu ne vaux rien devant qui? Devant Israël. Bon, Israël, je dis pas Israël parce que c'est pas Israël. Israël c'est un prophète. Mais devant les sionistes qui quoi? Comme j'ai dit tout le temps, quand quelqu'un pense à eux, il ne doit pas penser à seulement, il dit, yani, c'est Tel Aviv ou je ne sais pas quoi, une petite ville. Non. Eux, non, c'est quoi? C'est les États-Unis. C'est l'Angleterre. C'est l'Australie. C'est le Canada. C'est ceci. Tout cela, non, sont avec eux et les soutiennent et les aiment et les arment et les aident. Donc toi, tu sais que en étant un petit gouverneur en Algérie ou je ne sais où, que tu ne peux rien faire. Tout cela sont contre toi et que tu n'as pas les moyens même, de combattre cela, que tu le veuilles ou pas. Tu le veuilles. Al-Muhim. Si par contre tous les gouverneurs musulmans se mettent d'accord même, pour yani, former comme forment les autres le NATO même, et de dire tous la main dans la main qu'on n'accepte pas ce qui se passe, etc., ça aurait sûrement donné, elle a beaucoup de résultats. Maintenant, s'ils ne le font pas, moi, yani, je ne me rebelle pas contre eux à cause de cela. Non, moi, je fais des doigts à mes frères palestiniens, je les aide avec quoi? Avec ce que je peux. Et comme on dit les savants, non, d'ailleurs, j'ai lu ça fait seulement 2 ou 3 jours. Comme disent les savants, ils disent, jamais et jamais de la vie que les Palestiniens ou autres ne pourront avoir le dessus sur les Juifs et les sionistes jusqu'à ce qu'ils les combattent au nom de l'islam. Comme dans le hadith, qu'à la fin, vous savez qu'à la fin des temps, les musulmans combattront les Juifs et auront la victoire sur eux jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière les arbres, etc., comme vous connaissez le hadith. Mais pourquoi? Car ils vont les combattre au nom de l'islam. La preuve, l'arbre dira, Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, il y a un juif caché derrière moi. Il va t'appeler, Ya Abdallah. Maintenant, tu n'es pas serviteur d'Allah au nom, à la façon propre du mot. Non. Pourquoi? Parce que les Palestiniens, ce qu'ils demandent, c'est la terre. Il ne demande pas au nom de l'islam. Il te demande, il te dit, tu m'as pris mon pays, donne-moi mon pays, donne-moi ce que tu m'as pris, et comme ça. Donc jamais, il n'aura, et jamais aucun peuple n'aura la victoire sur les juifs jusqu'à ce qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, quand la personne a dit, si le prophète s'en se mettait vivant, il aurait fait cela ou ceci ou cela, ça c'est une chose que un musulman et un talibouïn, etc., ne doit jamais dire. Pourquoi? Car ça rentre dans ce qu'on appelle ilm al-ghayb. Ilm al-ghayb, le monde de l'invisible. Naam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu avec les juifs. Et des années à Médine avec les juifs. Naam. Et pourtant, c'est comme si quelqu'un va dire maintenant, il va dire, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant, il aurait boycotté les juifs. Par exemple, c'est un exemple. Lui, il a vécu avec les juifs, il ne les a pas boycottés. Donc, faut jamais parler d'une chose qui, yani, qui n'existe pas, et tu vas dire s'il était présent il aurait fait ceci ou cela. Comme quelqu'un a dit ici une fois, il a dit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il aurait mis un costume et une cravate. Astaghfirullah, a'oudou billah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il aurait mis un costume et une cravate, c'est-à-dire que il aurait suivi, yani, la, yani, le, pour eux, ce qu'ils appellent eux la civilisation, etc., etc. Al-Muhim. Donc je dis, celui qui a dit ça, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas, non, le prophète alayhi salatu wa sallam, certes, n'aime pas le dhulm, n'aime pas l'injustice, n'aime pas ceci, cela, mais ce qu'il va faire ou ne va pas faire, on ne le sait pas. Est-ce que toi, je dis à cette personne qui a posé cette question, est-ce que toi, avant de savoir ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, dans ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah, lorsque le prophète alayhi wa sallam était parti pour faire Umrah et les kuffars l'ont arrêté, voilà, l'ont arrêté en plein chemin, au milieu du voyage, ils lui ont dit il n'y a pas de Umrah, tu arrêtes et c'est interdit que tu rentres 10 années à la Mecque. Naam. Et ceux-ci et ceux-là, ils ont fait un pacte avec lui vraiment difficile. Est-ce que tu aurais su, toi, quelle est sa position, naam, et ce qu'il allait répondre si, yani, si tu n'avais pas lu ce qui s'était passé, yani, dans ce pacte de Hudaybiyah? Naam. Tu ne sais pas. Si tu aurais dit, ah bon, ils lui ont dit comme ça, alors il aura déclaré la guerre, alors que ce n'est pas vrai. Il a fait avec eux un pacte de 10 années, là, il n'y a pas de guerre. Alors, normalement, tu aurais dit, non, il ne fait pas le pacte. Comment? Je fais le pacte avec les juifs. Les ennemis d'Allah, je fais. Et il me dit, tu ne rentres pas à la Mecque. Et tu ne rentres pas cette année, jusqu'à l'année prochaine. Et comme ça, ah non, ce n'est pas possible. Je n'accepte pas. Et s'il y a un soldat de vous les musulmans, qui vient chez nous, on ne vous le rend pas. Et s'il y a un soldat de nous, un kafir, qui vient chez vous, il déclare son islam, vous devez nous le rendre. Et le prophète Hassan accepte. Et quand on écrit le pacte, on n'écrit pas Muhammad Rasulullah. On écrit Muhammad, fils de Abdullah. Tu n'es pas un prophète. Si tu étais un rasoul, un messager, on t'aurait suivi, ça fait longtemps. On t'aurait pas fait la guerre. Et il accepte, il dit d'accord, j'accepte le pacte. Alors que pour nous c'est quelque chose d'inacceptable, subhanallah l'adhim. Donc je donne un conseil à celui qui a dit cela de dire astaghfirullah et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Tfadlal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair ya cheikh pour cette réponse. Donc est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, prochaine question d'un frère qui demande: en ce qui concerne la mosquée que je fréquente, car c'est la seule de ma ville, je voulais vous dire qu'il y a un an et demi, il y a eu un jeune, très jeune, qui est tombé dans le ash'arisme. Et depuis, c'est devenu un poison. Il a contaminé tout le monde, à part 3 ou 4 frères attachés à la vraie sunna et à la vraie compréhension de l'islam. Et depuis, je fréquente de moins en moins la mosquée, car ils font des remarques qui vexent et qui, à chaque fois, pour ma part, m'énervent, et je suis prêt à m'emporter. Que me conseillez-vous, cher? Il fait plus la salat chez lui qu'à la mosquée avec sa femme, et il trouve cela très grave. Je dirais plutôt que deux, parce que beaucoup sont au travail. Par rapport aux frères qui sont sur le vrai minhaj, ils sont plus que deux, car beaucoup sont au travail et ne sont pas là. Et aussi que même l'imam est tombé dans cette secte. Donc, cher, qu'est-ce que vous conseillez à ce frère? Jazakallah, frère. Fadl.
Je conseille à ce frère, s'il y a une autre mosquée, d'aller à une autre mosquée. Mais s'il n'y a pas d'autre mosquée, qu'il ne prie pas à la maison, mais qu'il aille dans cette mosquée et qu'il prie naam, avec eux. Ensuite quoi? Ensuite, yani, sans être obligé de parler avec les gens et de faire des liens d'amitié, ni rien. Je suis pas obligé. Moi, je peux aller. Juste prier, je dis salam alaikum, quand on a terminé salat, salam alaikum,
je fais l'adhkar et je vais à la maison. Non. Sauf si maintenant il a peur d'être agressé ou d'être frappé ou d'être dans ce cas. Et s'il n'y a pas d'autre mosquée, il prie à la maison. Sinon, pour un homme, c'est interdit de prier à la maison. Sauf si vraiment, comme j'ai dit, il y a une darura. Sauf si une darura. Mais ici, je ne vois pas de darura. Je peux aller prier sans me mêler aux gens. Sans parler avec qui que ce soit. Juste prier et aller à la maison. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Naam. Jazakallahu khair, cher. Prochaine question. Question d'un frère. Un frère converti qui demande quel est le verdict de mettre nos enfants dans les écoles des kafirs. Ainsi, quels conseils vous pouvez nous donner sur ce point également? Un conseil et un encouragement aux familles pour ne pas les mettre ainsi, qu'on aimerait une réponse bien soulignée vu l'importance du sujet.
Justement, ça c'est un peu un problème et un grand problème. Pourquoi? Car quand la base est fausse, ce qui va être construit sur la base sera faux. Comme on dit en arabe, « Man bana ala da'if » Tant que la personne vit chez eux, chez les kofars, et au milieu des kofars, des fois, elle se trouve contrainte de faire des choses. Des fois, il n'y a pas de solution. Je donne un exemple. La base, c'est quoi? C'est de ne pas vivre chez eux, c'est d'être dans un pays musulman. Maintenant, je suis chez eux. Pour X ou Y des raisons, je suis chez eux. La première des choses que j'essaye de faire, c'est de leur faire l'école à la maison. Mais, là vient la grande question, est-ce que tout le monde peut faire l'école à la maison? Est-ce que tout le monde a les moyens de faire l'école à la maison? Est-ce que toutes les mères et tous les pères ont les moyens de faire apprendre à leurs enfants à la maison? Si c'est oui, il n'y a aucun problème. Ah, si c'est oui, je dois donc lui apprendre à la maison au lieu d'aller, de le laisser aller apprendre chez les kofars. Si c'est maintenant, j'ai pas les moyens ou la mère est analphabète et elle n'a jamais été à l'école, par exemple, elle peut enseigner à ses enfants? Ou alors si elle est malade, ou alors si elle est fatiguée, ou alors si elle est enceinte, ou alors si elle est ceci, cela. Là. Donc là, reste le point d'interrogation, comment qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va laisser des enfants rester analphabètes? Ni elle ne peut leur enseigner à la maison, ni elle n'a le droit de les envoyer à l'école des kofars. Comment qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va les laisser comme ça, rester analphabètes? Ça, c'est la grande question. Non, je voudrais, avant de répondre, chercher davantage ce que disent les savants, même si je sais que la première réponse qu'ils vont dire, c'est qu'ils doivent quitter le pays, comme ça ils disent. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils ne sont pas dans un pays musulman? Et comme ça. Et si je trouve, inshallah ta'ala, une réponse des savants, je vous la citerai, bi'idhnillahi ta'ala. Surtout que maintenant, ils sont en train de faire exprès pour ils savent que maintenant il y a beaucoup de gens qui rentrent en islam, il y a beaucoup de gens qui se prennent l'aladim, commencent à s'intégrer à la religion, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, beaucoup. Ils sont donc en train maintenant de faire voir comment pour essayer que le maximum n'aille pas vers cette voie, pour détourner les gens. Non. Vous remarquez maintenant que dans les écoles, ils commencent même donc à leur apprendre très jeune la sexualité. La sexualité très jeune. Pour que l'enfant, ouvre ses yeux et commence à faire des choses pareilles, il ne soit pas intéressé par la religion, par exemple. Non. Et pire, si c'était la sexualité entre hommes et femmes, on va se taire, car plus ou moins, on n'a pas d'autre solution. Maintenant, même entre hommes, on leur apprend. C'est pour ça qu'on m'a dit une fois, est-ce qu'il y a une association musulmane salafie qui donne des cours aux enfants? Et s'il y a ça, alhamdoulilah, s'il y a des associations qui donnent des cours. Alhamdoulilah. Maintenant, ma soeur, elle m'a dit, elle a ouvert le livre de son enfant, l'âme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livre? Qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant? Je crois un livre de lecture, je crois. Mahdi, met du maquillage sur ses lèvres avant d'aller à l'école. Mahdi, ce n'est pas Jean, ou bien René, ou bien François. Mahdi, prénom musulman. Pourquoi? Pour que tu dises toi, pour que l'enfant dise donc ça se fait. Même les musulmans, ils doivent, si ce sont des hommes, ils ont le droit de mettre le maquillage quand ils sortent dans la rue. Donc vous voyez l'homosexualité. Un enfant de 5 ans ou 6 ans, il va lire dans le livre Mahdi, met du maquillage ou elle met du rouge à lèvres sur ses lèvres, rouge à lèvres, avant d'aller à l'école. Ça existe dans les livres de vos enfants. Subhanallah, alors qu'il n'y avait pas ça. Donc maintenant, ils veulent y aller. Et le moins, c'est très grave pour les parents qui ne voient pas ce que leurs enfants apprennent et ne lisent pas ce qu'ils lisent eux, ce qu'ils leur apprennent pour leur corriger. Non, toi, quand tu ouvres le livre, et toi, sa mère, surtout, le père, il est tout le temps dans le travail, dans je ne sais où, avec ses amis au football. Et toi qui es sa mère, tu dois ouvrir le livre et le cahier de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui? Ensuite, il te dit aujourd'hui, on a appris la leçon Mahdi, il met du maquillage, etc. Tu lui dis, dame, mais attention, ça c'est pas vrai. En islam, c'est interdit. Ça, ce sont les koufars qui font cela. Nous, on est des musulmans. Regarde, attention, il faut pas qu'on te trompe, mon fils. Dame, ça c'est chez les mécréants, ceux qui vont aller en enfer. Nous, on est des musulmans, inchallah. Ça, c'est interdit, c'est haram. Le maquillage, c'est pour les femmes, pas pour les hommes. Et à la maison, pas dans la rue, comme ça. Non, tu dois contrecarrer ce qu'ils disent. Si tu le laisses maintenant apprendre tout, ça, c'est grave pour lui, grave pour toi aussi, et pour nous tous. Fadlal.
Non, cher, barakallahu fik, jazakallahu khair. Et ce qui est plus étonnant, c'est que pour dégrader les enfants des musulmans, ils prennent des prénoms musulmans pour donner des exemples. Mais alors, pour donner des exemples comme quoi, telle personne est informaticien ou professeur ou autre chose, ils n'ont jamais dit le prénom Mehdi. C'est toujours Jean-Pierre, François, Paul. Frère, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, je vais vous poser la prochaine question qui dit, Assalamu alaikum, qu'Allah vous récompense en bien et vous honore. J'aimerais savoir si on a le droit de faire des dons à des constructions de mosquées qui ne suivent pas le minhaj. Jazakallahu khair ya cheikh.
Il y a eu une fatwa d'un des grands savants, et je crois que vous pouvez la trouver sur internet, auquel on a posé cette question. Il a dit non. Il a dit, tu donnes ton argent à une mosquée qui va, inshallah ta'ala, propager la sunna, va propager l'asar des sahaba, va propager, yani, le hadi du prophète alayhi salam. Mais tu donnes pas ton argent pour construire une mosquée qui va apprendre aux gens que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, que Allah Ta'ala ne rit pas, ne descend pas, n'a pas de main. C'est quoi cette mosquée? J'ai pas besoin d'une mosquée pareille. Donc comment se fait-il que j'aide une mosquée pareille? C'est pas possible. Vous avez compris? Donc j'aide une mosquée quand, ou bien elle est salafi, elle est mashallah, le minhaj, ou bien je ne la connais pas. Je ne sais pas, c'est une mosquée de musulmans, c'est tout ce que je sais. Mais par contre, si je sais que c'est une mosquée de Tablir ou de Ikhwan ou de Habash ou de Gda, je n'aide pas. Il y a mille et une autres façons de gagner du ajr bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Prochaine question. Question d'une sœur qui demande, voici sa question, donc elle est un peu longue, tac tac tac, voilà, donc mon grand-père, Allah est décédé à Alger, et certaines personnes de ma famille, comme ma tante et ma grand-mère, ont touché de l'argent provenant d'un capital décès. On nous a dit que seules les personnes non mariées et sans emploi peuvent toucher cet argent. Ceci est-il légiféré en islam comme l'héritage d'un homme laisse à ses enfants? Barakallahu fikoum de rappeler, s'il vous plaît, les règles de la question de l'héritage, argent et bien matériel, essayé par le défunt en islam. Jazakallahu khair, cher Fadl.
Si c'est possible de répéter la question, Barakallahu fikoum.
Non, Inch'Allah, pas de souci. Donc, la sœur de monde, son grand-père est décédé, Allah rahmou, à Alger. Il est décédé à Alger. Et certaines personnes de ma famille, comme ma tante et ma grand-mère, ont touché de l'argent provenant d'un capital décès. On nous a dit que seules les personnes non mariées et sans emploi peuvent toucher cet argent. Ceci est-il légiféré en islam comme l'héritage d'un homme laissé à ses enfants? Barakallahu fikoum de rappeler, s'il vous plaît, les règles de la question de l'héritage, argent et bien laissé par le défunt en islam. Fadl cheikh.
Je ne vois pas pourquoi seuls ceux qui sont mariés ou là, qui ne sont pas mariés et sans emploi peuvent toucher cet argent. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, si c'est quelque chose qui rentre dans l'héritage, que je sois marié ou pas, que je travaille ou pas, je touche ma part. Maintenant, si l'État donne ce, comment ça s'appelle ça, c'est pas le capital, cet argent, si elle le donne spécialement, juste pour ses filles, par exemple, qui sont pas mariées, ou pour ceux qui travaillent pas, dans ce cas, ça c'est autre chose. S'il y a une loi que la société ne donne que pour ceux qui travaillent pas, ça c'est autre chose. Mais si la société donne cet argent en tant qu'héritage, donc tous les héritiers ont le droit de prendre cet argent, mais il l'a été. Donc c'est quoi la dernière question pour terminer, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a une dernière question?
Jazakallah khair ya cheikh. Naam. Donc on va terminer par cette question. La question d'un frère qui demande: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya cheikh et tous ceux qui sont dans la room, des rumeurs parlent de vous concernant Maghrawi. Allahu a'lam, disant que vous avez pris sa défense. Pouvez-vous nous éclaircir, ya cheikh? Sinon, l'autre question est: vous savez combien de hadiths faux sont dans le Sahih al-Bukhari et comment les retrouver? Fadal, ya cheikh. Allahu musta'an.
C'est qui la personne que tu as dit? Tu as cité une personne, c'est qui? C'est possible d'écrire? Donc je commence par répondre à la deuxième question. Les hadiths faux dans Sahih al-Bukhari, je n'en connais pas. D'ailleurs, les savants ne disent pas hadith Maghrawi, d'accord, Maghrawi du Maroc. Et donc, les savants ne disent pas hadith faux dans Sahih al-Bukhari. Tu veux dire hadith faible. Car faux, ça veut dire menti. Et il n'y a aucun dans Sahih al-Bukhari. Naam. Dans Muslim, il y a des hadiths faibles. 6, 7, 8. Naam, je vous ai cité une fois 5. Mais dans le Bukhari, de dire faux, c'est grave. Ça veut dire mawdou'. Peut-être tu veux dire faible. Et j'en connais pas. Naam. Personnellement, maintenant dans ma tête, je n'en connais pas. Naam. Il y a des hadiths qui sont pas, que Bukhari rahmoullah n'a pas cité, comme quoi ils sont authentiques. Mais ta'liqan, il dit par exemple que Abu Bakr a dit que le prophète a fait telle et telle chose. Ce qu'on appelle ta'liqan. C'est-à-dire qu'il enlève sanad et il laisse seulement yani, le hadith là où il commence ou bien à partir du sahabi. Ça c'est pour la première, ça c'est la deuxième question. Et pour la première partie, donc ils disent salamu alaikum, des rumeurs parlent de vous concernant Maghrawi, disant que vous avez pris sa défense. Je dis à cette personne qui dit cela, attention, Akhi, quand Yanni te fasse tomber dans le piège et le panneau. Naam. Parce que maintenant, beaucoup de gens voient que cette da'wa, alhamdoulilah, marche, et marche chaque jour, Yanni, mieux que la veille, alhamdoulilah, et ça c'est le tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni de moi, ni de ma science, ni. C'est le tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, ils vont essayer de trouver des choses. À droite, à gauche, entendre ce que je dis, lire ce que j'écris, ceci, cela, pour trouver, yani, est-ce qu'il y a des fautes. Quand ils ne trouvent pas, alors ils vont faire marcher des rumeurs comme quoi ceci, comme quoi cela. Naam. Alors pour terminer, je te dis,
je défie n'importe qui, qui soit, qui est vivant maintenant, de ramener une parole de moi, une seule, où je défends Maghraoui. Alhamdulillah, depuis que je suis, Inch'Allah ta'ala, sur la sunna, je n'ai jamais défendu le Maghraoui, mais de tous les temps, montré qu'il était dans le faux. Pour vous dire une chose, et là c'est un petit secret, est-ce que vous m'entendez, écrivez numéro 1. Un petit secret, hein. Écrivez numéro 1, Alhamdulillah. Chauf, Maghraoui, Maghraoui. Quand j'étais au Koweït, je n'avais jamais entendu parler de lui. Jamais dans ma vie. Avait, quand j'étais au Koweït, je n'avais jamais de ma vie, c'est-à-dire vers les 2001, entendu parler de lui. Et une fois, ils m'ont invité à aller assister à un de ces débats. Il est, pas débat, ce qu'on appelle muhada, une conférence. Il est venu au Koweït, il est allé faire une conférence. Je ne le connaissais pas, ni jamais avait entendu parler de lui. On m'a dit que c'était quelqu'un de mashallah, sunnah, etc. Je suis allé. Pour vous dire la vérité, Wallahi l'azim, Allah Ta'ala est témoin de ce que je dis, que quand il a commencé à parler, jusqu'à ce qu'il ait terminé, je n'ai pas senti dans mon cœur que c'est quelqu'un de bien et qu'il fallait de suivre et qu'il était yani, sur le soleil le minhaj. La même chose pour Mohamed Hassan, que avant d'avoir entendu parler de lui, quand j'ai commencé à l'entendre à la télé, jamais je n'ai ressenti dans mon cœur que c'est quelqu'un sur le minhaj, mais toujours je sentais quelque chose dans le cœur qui disait non, qu'il y avait du louche. La même chose pour Ishaq, Abu Ishaq al-Huwaydi, et comme ça. Allah Ta'ala, alhamdulillah, donne aux croyants, à celui qui a un peu des ondes de science, quelque chose dans le cœur, ce qu'on appelle Furqan, une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit que, comme a dit le prophète, il a dit, ta'rif minhum wa tunkir. En les entendant, en parlant de certains, ou bien en les voyant, il a dit, ta'rif minhum wa tunkir. C'est-à-dire, il y a des choses que tu connais, il y a des choses que tu acceptes et d'autres que tu n'acceptes pas. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont pas clairs. Quand tu les entends, ils sont mélangés. Tu acceptes des choses, tu n'acceptes pas des choses d'eux. Tu dis, oui, mais pourquoi ils sont ceux-là, pourquoi ceux-ci? Il ne m'a pas plu dans sa façon de s'habiller, sa façon de se raser la moustache, ça, et comme ça. Donc, je dis pour terminer, je reviens à Maghraoui, jamais je n'ai dit que c'est quelqu'un de bien, et jamais je l'ai défendu. Et celui qui a un mot de moi en cela, l'âme, comme a dit Allah Ta'ala, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, qu'il ramène un audio de moi où je dis qu'il est bien et qu'il est mashallah et c'est quelqu'un à suivre. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On termine aujourd'hui pour eux. Inch'Allah Ta'ala, si demain ou après-demain je suis bien, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas d'invité, vous voyez connecté, on ouvre le salon et on termine bi'idhnillahi Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est à vous, Inch'Allah Ta'ala, Fawzi, de fermer le salon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.